L'auteur, l'auteur. L'histoire qu'on va lire n'est pas de moi. Elle a trait à deux hommes et à une pièce de théâtre, au lieu d'une femme, comme c'est l'usage. Je la tiens d'un vieux monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui a eu le grand tort de ne pas l'écrire lui-même. Il n'y a jamais consenti et n'y consentira jamais, d'ailleurs pour la raison bien simple qu'il a été intimement lié pendant sa jeunesse avec l'un des deux hommes en question. Par contre, il m'a autorisé à raconter cette histoire aussi approximativement que possible, comme il me l'a coûté, et je m'en sens capable. Je vais donc essayer, quitte à ne pas la lui soumettre ensuite, si j'ai trop peur d'avoir mal réussi. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce pauvre vieux Farazine et de sa pièce ? Oh non, non, je n'en ferai rien. Enfin, puisque vous y tenez, voici la chose. Mes souvenirs datent d'un soir d'été où j'étais en train de travailler dans mon vieux logement d'Adelphi et où je le vis tout à coup entrer, très exalté, insistant pour m'exposer sur l'heure une idée qui venait de germer dans son esprit. Je me rappelle que je refermais avec rage le tiroir dans lequel j'avais serré mes feuilles et, furieux d'être ainsi dérangé en plein labeur. Mais quelques minutes après, j'avais complètement oublié mon article inachevé et bénissais Farazine d'avoir eu la bonne idée de venir me voir. À cette époque, nous faisions tous les deux nos débuts en littérature. Ni lui ni moi n'étions encore parvenus à voir notre nom présenté au public, même pas dans les semestres d'une revue sans lecture et indigne d'en avoir. À proprement parler, nous pouvions nous considérer comme rivaux, puisque nous écrivions tous deux le même genre d'articles pour les mêmes publications, ce qui d'ailleurs avait été cause de notre rapprochement. Mais jamais rivalité ne fut plus amicale, et l'on pourrait même dire plus serviable. Il faut avouer aussi que nous nous complétions singulièrement l'un l'autre, et si la collaboration n'avait toujours été pour moi un problème au-dessus de ma compréhension, je crois pouvoir affirmer que j'aurais été incapable de trouver un collaborateur plus idéal que Farazine. Au point de vue instruction, je pouvais facilement lui rendre des points. Mes tournures de phrases, mon style l'emportaient de beaucoup sur ce qu'il était capable de faire. Et je ne crois pas pécher par vantardise en disant cela, car je m'empresse d'ajouter que sur ma supériorité, ce borne est là. Lorsqu'il contait une histoire, il mettait un feu, une ardeur qui m'inspirait et m'inspire encore aujourd'hui de l'admiration et de l'envie. Et si son imagination était moins fertile que la mienne, quand il y venait une idée, elle surpassait tellement ce que je faisais, en vigueur et en originalité, qu'il semblait absurde d'établir la moindre comparaison. C'est pourquoi j'ai toujours échoué dans le roman. Oh, ne vous défendez pas, je le sais. Et c'est pourquoi Farazine aurait réussi, s'il avait eu la sagesse de s'en tenir au roman, au lieu de chercher à se lancer dans d'autres branches de la littérature qui n'étaient pas faites pour lui. L'idée qu'il était si pressé de me communiquer le soir dont je vous parle était certes l'idée la plus neuve et en même temps la plus simple, la plus dramatique qui ait jamais germé dans le cerveau d'un homme de lettres et la plus susceptible de faire pâlir d'envie un confrère. Je le revois encore, allant et venant à travers la pièce de son pas vif et nerveux, en m'exposant la trame de son récit, morceau par morceau, souvent autrement que dans l'ordre qu'il aurait fallu, mais avec tant de fougue que je suis désolé de n'en voir et pour moi-même chaque fois que j'y songe. Parfois, il s'arrêtait devant moi, qu'il écoutait attentivement, et de l'une de ses mains frappait avec force son autre main, en me regardant avec un prodigieux sourire émerveillé, comme si lui-même n'en revenait pas d'avoir un cerveau capable d'enfanter de telles choses, ou comme s'il doutait de la valeur réelle de sa conception tant elle resplendissait à peine éclose. Sur ce point, il m'était facile de le rassurer. La jalousie qu'il m'inspirait et que je ne cherchais pas à lui cacher, était un sûr garant de mon admiration. Mais lorsqu'il m'annonça tout de go qu'il avait l'intention d'en faire une pièce et non un roman, je lui déclarai sans embâche qu'il n'était qu'un imbécile. Je lui conseillais d'en tirer plutôt parti pour un bon roman d'action qui le consacrerait d'un seul coup. Mais non, il était dans un de ces jours d'obstination, il n'y avait plus qu'à le laisser agir à sa guise. Il lui semblait déjà, disait-il, voir et entendre ses spectateurs rire et pleurer. Et je suis persuadé que dans ses locaux rêves d'avenir, il accordait une large part aussi aux recettes qu'il escomptait. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous passâmes la nuit entière à discuter, tout en fumant et en buvant du whisky. « Et maintenant, mon vieux, » conclut-il en mettant son chapeau, « dites-vous bien que vous ne m'entendrez plus jamais parler de cela tant que ma pièce ne sera pas complètement écrite. Et vous, de votre côté, il est entendu que vous ne me poserez aucune question. Nous sommes bien d'accord. Alors, c'est convenu. Quand j'aurai terminé et que tout sera mis au point, c'est vous qui viendrez passer la nuit chez moi. Et je vous lirai mon travail depuis la première jusqu'à la dernière ligne. Et par Saint-Georges, mon garçon, si jamais le public me réclame à la première et m'oblige à faire un speech, par Saint-Georges, si je vous aperçois dans votre fauteuil d'orchestre, comme une vieille bête que vous êtes, je vous jure que c'est à vous que je m'adresse et que je vous fais honte devant tout le monde. Ce que fut cette première, vous le saurez tout à l'heure. En attendant, je vis très peu Farazin pendant les 6 mois qui suivirent, et encore bien moins l'année d'après. Il venait fort rarement chez moi à présent, et quand par hasard il y venait, je ne pouvais plus le décider à veiller en ma compagnie comme auparavant. Une fois même que j'étais monté frapper à la porte de sa mansarde, car c'était bel et bien une mansarde qu'il habitait, il refusa de me répondre. Cependant, je savais qu'il était là, attendu que je sentais la fumée de sa pipe à travers le trou de la serrure à laquelle il avait donné un tour de clé. Néanmoins, il se montrait toujours très aimable avec moi chaque fois que le hasard nous mettait en face l'un de l'autre. Il disait qu'il travaillait d'arrache-pied, et vraiment j'étais assez disposé à le croire, car sa mise, qui n'avait jamais été très correcte, devait être encore plus négligée, pour ne pas dire plus misérable que naguère. Il continuait à m'envoyer de temps à autre des numéros de magazines auxquels il collaborait, et parfois aussi des épreuves d'imprimerie pour quêter auprès de moi un avis ou des indications dont il avait besoin. Mais il me donnait toujours l'impression que ce qu'il publiait venait d'être franchement décrit, tandis que la majeure partie de ce que je composais moi-même ne paraissait guère qu'un an après. En tout cas, il me faisait l'effet de travailler maintenant tout comme nous autres et d'avoir laissé de côté, pour le moment du moins, la pièce projetée au sujet de laquelle vous ne vous rappeliez, j'avais promis de lui poser aucune question. Bien, cela, je me trompais. Un soir, au mois de mars suivant, je le vis apparaître, la figure défaite, mais l'œil étincelant, avec un gros manuscrit tout frais qu'il laissa tomber avec bruit sur mon bureau. C'était le texte de la pièce dont il m'avait exposé les grandes lignes auparavant, et j'appris avec stupeur que pendant tout ce temps il n'avait pas cessé un seul instant d'y travailler. Il se vantait même de n'avoir pas écrit une seule autre ligne dans l'intervalle, mais d'avoir, par contre, réécrit une dizaine de fois au moins chacune de celles qui composaient sa pièce. Il me lut sa pièce. Le troisième acte me fit pleurer, et lui aussi. Je trouvais alors, et mon opinion n'a pas changé depuis, qu'il y avait véritablement du génie dans ce troisième acte. Il était littéralement saisissant. Mon avis était d'ailleurs que sa pièce rendrait aussi bien à la scène qu'à la lecture. Mais j'eus bien soin de lui faire remarquer que mon avis à moi était sans valeur aucune. Je ne savais qu'une chose, c'est que les scènes étaient toutes si vivantes que je n'avais aucune peine à me les représenter, et cela suffisait à me rendre enthousiaste. Et en disant cela, j'allais et venais à grands pas dans la pièce, car cette fois, c'est moi qui étais trop agité pour rester tranquille sur ma chaise. J'étais aussi transporté que si l'œuvre avait été de moi, et pourtant Dieu sait, hélas, que jamais je n'ai été et ne serai capable d'en écrire une pareille. Mais j'avais beau l'examiner sous toutes ses faces, je ne voyais aucune amélioration à y apporter, ni aucune rectification à y faire. Quelle ne fut pas ma surprise, par la suite, devant l'invariable accueil que lui firent les directeurs de théâtre, mais ces gens-là ont des manières si bizarres. En attendant, cette nuit-là, nous étions bien persuadés qu'en fait d'accueil, il n'y en avait qu'un seul qui pût lui être réservé. Et cette fois encore, nous causions avec animation, lorsque le soleil vint apporter ses premiers rayons sur mes fenêtres. La pièce était si pleine de fumée de tabac que l'on avait peine à y voir. Et nous avions vidé une bouteille entière au succès de l'œuvre de Farazine. Oh, ces nuits, que ne puis-je les revivre une fois de temps en temps? Dieu me pardonne, que de choses ne sacrifierais-je pas pour de nouveau être jeune, sentir bouillonner dans mon cœur mon intelligence toute fraîche, et vivre des nuits entières tête à tête avec cet homme, en ébauchant des rêves de gloire et en buvant de simples grogues. En songeant à ce qui advint ensuite, peut-être devrais-je rougir d'évoquer ces nuits passées en la compagnie d'un tel camarade. Mais j'estime qu'il est ridicule d'attribuer toutes sortes de conséquences à de pauvres plaisirs bien innocents que l'on s'est accordés une fois en passant. Et pour ma part, je me refuserai toujours à admettre que ces modestes orgies de jeunesse aient pu en quoi que ce soit être cause de l'échec ultérieur de Farazin. Je sais fort bien que plus tard, lorsqu'il passera sa vie à pourchasser les susdits directeurs de théâtre, dans les couloirs glacés et sur les marges de la Seine, et parfois même, en désespoir de cause, dans la rue, sous les portiques où attendait le public, lorsqu'après avoir usé de 100 subterfuges et avoir été raboué 100 fois, il finissait par voir revenir son manuscrit détérioré sans avoir été lu, « Je sais, dis-je, et je savais déjà, que le pauvre diable qui m'écrivait dans Fleet Street ou feignait de ne pas me voir dans le Strand s'était souvent laissé aller à boire plus que de raison. Mais après tout, est-ce que cela peut avoir beaucoup d'importance? Comprenez-moi bien, je dis beaucoup d'importance quand ce malheureux a le cœur brisé. Aujourd'hui encore, chaque fois que je repense à lui, les dernières paroles que j'étais destiné à échanger avec lui me tintent aux oreilles et je me ferai fort de les répéter mot par mot. Il y avait des années entières que nos relations avaient cessé et je ne l'apercevais plus que de loin en loin dans Fleet Street où il flânait comme un vagabond de la plus basse catégorie. Lorsqu'un soir, je me trouvais face à face avec lui à l'entrée d'un théâtre. Le théâtre en question était celui qui, pendant plusieurs années, fut une véritable mine d'or pour un certain Morton Morrison, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui fut en son temps l'enfant chéri du public et qui atteignait l'apogée de sa gloire à l'époque dont je vous parle. Pour en revenir à Farazine, je l'aperçus tout à coup, les deux mains dans ses poches, un brûle-gueule entre sa moustache et sa barbe en broussailles, adossé à la porte du parterre, de telle façon qu'il lui était impossible de m'échapper. Néanmoins, il ne voulut pas sortir une main de sa poche pour serrer la mienne. Et comme je lui demandais machinalement des nouvelles de sa santé, il me répondit en me riant au nez, ce qui me fit comprendre que j'avais été cruel sans le vouloir. Il était d'une maigreur éthique et presque en haillons. Ne sachant que lui dire ni que faire pour lui venir en aide sans le froisser, je le regardais tout perplexe quand il fut pris d'une quinte de toux et cracha sur le trottoir. Je m'aperçus qu'il crachait du sang. J'ignore si vous auriez été mieux inspiré que moi, mais tout en sachant fort bien à quoi il fallait imputer l'état dans lequel il était, je ne trouvais rien de mieux à lui proposer qu'une boisson chaude. On était en plein hiver et, je le répète, cet homme était en haillons. De plus, j'avais l'impression que, si je le décidais à me survivre dans un bar, je pourrais le forcer à manger également quelque chose et prendrais peu à peu tant d'influence sur lui qu'il ne serait plus en état de m'échapper. Jugez de ma surprise lorsqu'il me refusa tout net de m'accompagner, même pour boire simplement un grog. « Vous ne voyez donc pas, » me dit-il de sa voix caverneuse, « dans quelques instants, il y aura foule ici, et je tiens à voir la meilleure place du parterre, la meilleure de la salle. Voici 2 jours que je me dessèche dans cette intention, et je ne me mouillerai pas le gosier avant d'avoir vu la pièce. Non, non, il y a déjà 1 heure que je suis là ici, et je suis encore au premier rang. » Si je m'en allais, je n'y serais sans doute plus à mon retour. Oh, merci tout de même. » Je venais subitement de me rappeler que Morton Morrison devait ce soir-là ouvrir les portes de son théâtre avec une nouvelle pièce. À dire vrai, j'étais même impardonnable de l'avoir oublié, puisque j'avais mon billet d'invitation sur moi et que je devais écrire une colonne de compte-rendu entre 00h et 01h du matin. Mais cette triste rencontre m'avait complètement bouleversé. « Oh, ça, mon vieux !» lui demandai-je, en essayant de rire. « Est-ce que vous suivez les premières aussi, vous ?»« Seulement à ce théâtre, » me répliqua-t-il avec un regard étrange. « Vous avez tant d'admiration que cela pour Morrison ? Je l'aime de tout mon cœur !» Il paraissait s'attendrir en me regardant, et pourtant, Dieu sait, si je faisais tous mes efforts pour ne pas prendre des airs apitoyés qui auraient pu le blesser. Quoi qu'il en soit, dans un élan soudain, plein d'impétuosité et d'amertume, il se mit de son propre accord et sans que je l'en eusse prié, à me fournir des explications. « Écoutez, » reprit-il en cherchant à étouffer sa voix rauque pour parler bas, « j'avais espéré de jamais vous revoir. J'avais espéré que vous ne me reverriez jamais. Mais, puisque vous êtes ici, restez un instant à côté de moi. Je vais vous dire pourquoi j'ai tant d'estime pour Morton Morrison. Remarquez bien que je ne le connais pas, et que lui non plus ne me connaît pas. Mais une fois, il y a de cela longtemps, j'ai eu affaire à lui. Eh bien, que Dieu le bénisse et envoie en enfer tous les autres directeurs de théâtre de Londres. Car parmi eux, tous, c'est le seul qui m'ait reçu poliment et qui ait eu un mot aimable pour moi. » Je savais de quoi il voulait parler et il se rendit compte que je le savais. Ce n'est pas pour rien que nous nous connaissions si bien autrefois. « C'est à lui que je l'ai porté en dernier, » poursuivit-il, en essuyant ses lèvres humides avec sa main. Quand j'ai commencé à le promener, il était incommis, et lorsque vint son tour, il était fici. Alors il m'autorisa à la lui lire. Puis il me demanda de la lui confier 8 jours, et quand je retournai le voir, il me répondit ce qu'on m'avait répondu partout, que cela ne rendrait pas la scène. Seulement lui, Morton Morrison, il y mit les formes. Et voyant combien j'étais désolé, il m'interrogea pour savoir comment je l'avais écrite, puis me conseilla de la brûler plutôt que de gâcher ma vie à me morfondre à son sujet. Alors je brûlai mon manuscrit dans le cheminée de sa loge, mais il était trop tard. Ma vie était si bien gâchée déjà qu'il n'y avait plus d'espoir. J'avais écrit cette pièce avec le sang de mon cœur. Vous le savez, vous, n'est-ce pas? Et aucun d'eux n'a daigné s'en apercevoir, hélas. Mais Morrison, au contraire, s'est montré très bon pour moi. C'est un excellent homme. Et voilà pourquoi vous me verrez toujours à ses premières, jusqu'au jour où la boisson viendra à bout de moi. Je ne l'avais pas suivi jusqu'au bout. Il y avait un défaut qui m'avait frappé au point de me faire oublier le reste. « Vous avez brûlé votre pièce, murmurai-je, alors que vous auriez pu en trouver un si beau roman. Voyons, il vous en reste bien un scénario. »« J'ai tout brûlé, » déclara Farazine. « Et avant peu, ce sera mon tour, car l'enfer m'attend. » Je ne formulai aucun commentaire pour approuver ou désapprouver cette assertion. D'ailleurs, je ne voulais pas m'écarter de mon sujet. Je ne fais pas grand cas de ces gens bien intentionnés qui vous conseillent de brûler votre ouvrage et d'abandonner la lutte, ripostai-je avec indignation, car je ne me sentais aucune sympathie pour ce Morrison, doucereux acteur de salon dont la vogue même avait le nom de m'exaspérer. « Alors, que pensez-vous de cela ?» me demanda Farazine en plongeant sa main dans sa minable jaquette et en l'ouvrant ensuite avec précaution sous mon nez. « Bah, c'est une banque-note de 5 livres. Je le sais. Mais ça, vous trouvez pas que c'était gentil de sa part ?»« Ah, alors c'est Morrison qui vous en a fait cadeau ?» demandai-je. Deux ou trois personnes s'étaient arrêtées pour se joindre à nous devant la porte d'entrée du parterre, et Farazine se dépêcha de remettre le billet dans sa poche. En remarquant ce geste, je me sentis encore plus peiné de voir la misérable façon dont il était vêtu. « Mais vous n'allez donc jamais dépenser cela ?» questionnai-je à voix basse. « Jamais !» me répliqua-t-il à voix basse lui aussi. « C'est tout ce que ma pièce m'a rapporté. Absolument tout. Cela m'a été donné par charité, mais je l'ai accepté comme un salaire. Un salaire durement gagné par tout le travail, toute la patience, toutes les fatigues physiques et morales et tous les sacrifices d'amour propre que cette œuvre m'avait coûté. Dépenser cela, moi ? Non, alors ! Cela me permettra au moins d'être enterré aussi décemment que je le mérite. » Je l'aperçus aussitôt que j'entrais dans la salle du théâtre ce soir-là. Je lui adressai un signe amical auquel il ne répondit que par une maussade inclinaison de tête. Comprenant qu'il préférait ne pas être regardé, je détournai les yeux d'un autre côté jusqu'au lever du rideau. Mais la tentation était si forte que je ne pus y résister plus longtemps, car Farazine était assis au beau milieu du premier rang du parterre, tandis que moi, j'occupais le bout du dernier rang de l'orchestre. Et j'étais très inquiet à son sujet, tenant bien à m'assurer qu'il était toujours là, que cette fois il n'allait pas m'échapper encore. Et me sentant tout nerveux chaque fois que je le regardais et que je perdais de vue 5 minutes, il en résulta que je prêtais beaucoup plus d'attention au jeu de physionomie de Farazine qu'aux scènes de la pièce qui les provoquaient. Cependant, ce ne fut guère avant la fin du premier acte que je m'aperçus de la singulière expression qu'avait prise sa figure. Le sentiment qui paraissait y dominer, ainsi qu'en témoignait la manière dont il relevait les sourcils, était l'incrédulité. Et cependant, je n'avais remarqué jusque-là rien d'invraisemblable dans l'intrigue. En somme, la situation me semblait au contraire fort plausible et donnait même à supposer que la suite serait bonne. Mais, chose bizarre, tout cela me procurait en même temps une impression de déjà-vu. Néanmoins, j'aurais été incapable d'en définir la raison, tant j'étais occupé à épier la figure de Farazine. Ce fut du reste sa figure qui m'en fournit enfin l'explication au second acte. Cette pièce que l'on jouait là, par Dieu, c'était la sienne à lui. Oui, c'était la pièce de Farazine avec deux ci-de-là quelques légères modifications, mais sans aucun changement de grande importance. Dès lors, il n'y avait plus pour moi qu'un seul acteur digne d'intérêt. Et cet auteur n'était pas sur la scène que je ne regardais plus, mais dans la salle, au premier rang du parterre. Pendant longtemps, je vis la figure de mon pauvre camarade jadis se livrer à toute une série de contorsions et de grimaces. Puis finalement, elle se figea en une expression de calme farouche. En l'observant ainsi, je repensais malgré moi à cette première dont il s'était fait un si joyeux tableau autrefois, à l'époque où il s'exaltait dès que je lui parlais de sa pièce. Je me demandais si le seul fait d'évoquer comme moi ses souvenirs pouvait ajouter encore à l'amertume de ses pensées. Maintenant, quoique très préoccupé par ce que je venais de découvrir, j'écoutais très attentivement la pièce. Et au troisième acte, j'entendis réciter les propres mots que mon camarade avait écrits. On avait scrupuleusement suivi son texte pendant toute la grande scène qui nous avait émus, lui et moi, jusqu'aux larmes. Or, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais je vous en fais le serment. Au point culminant de cette scène, qui était, je le répète, absolument telle que l'avait construite Farazine, l'expression de férocité contenue qui s'était peinte sur sa physionomie s'effaça tout à coup, et je vis jaillir de ses yeux les mêmes larmes que jadis, les larmes que s'arrache lui-même un auteur en relisant son œuvre. Lorsque le rideau tomba, je vis le pauvre diable qui, le menton dans sa main, en une attitude contemplative, prêtait une oreille attentive aux bravos, en se donnant l'illusion qui lui était destinée. Puis il quitta sa place et se faufila dans la foule pour se rapprocher du côté où je me trouvais. J'en conclus qu'il voulait me parler par-dessus la séparation et me diriger à sa rencontre. Toutefois, il fit mine de ne pas me voir et se contenta de s'adosser à la séparation, la figure aussi pâle et aussi immobile qu'un marbre. Ce qui se passa ensuite, je vais essayer de vous le raconter aussi rapidement que cela advint en réalité. Jamais, à aucune première, je n'avais entendu le public réclamer l'auteur avec autant d'insistance. En proie à la curiosité la plus vive, je me retournai vers la scène pour voir qui se présenterait, car la pièce avait été annoncée comme étant d'un auteur anonyme. Et je devinai que c'était Morrison lui-même qui allait en revendiquer la paternité. C'est d'ailleurs ce qui se produisit. Mais au moment même où ce mensonge tombait de ses lèvres, et dans l'intervalle qui précéda de nouvelles saisies d'applaudissements, j'entendis un bruit sourd à côté de moi, et je vis Farazine enjamber la séparation et s'élancer en courant le long de l'allée qui séparait les rangées de fauteuils d'orchestre. J'imaginais déjà l'instant où il allait franchir d'un bond les feux de la rampe pour venir se planter devant Morrison sur ses propres planches et le traiter, comme il le méritait, de plagiaire devant toute la salle. Mais l'orchestre formait une barrière infranchissable, et quelques musiciens se levèrent, se demandant ce que cela voulait dire. Alors, comme un fou, il se retourna vers nous autres, membres de la presse, et je sais que notre attention, sinon celle de la salle entière, lui fut accordée pendant les courts instants où il put parler. « Messieurs !» cria-t-il en enflant sa voix tant qu'il pouvait. « Messieurs, je suis un de vos confrères. Je suis un écrivain comme vous, et cette pièce que vous venez de voir jouer devant vous, c'est moi qui en suis l'auteur. L'homme que vous voyez là sur la scène est un imposteur. Celui qui a véritablement écrit cette pièce, c'est moi. Il s'est simplement borné, lui, à la modifier un peu. Je la lui ai lue il y a deux ans. Il y a deux ans, messieurs. Il l'a conservée pendant une semaine, puis il m'a conseillé de la brûler, en me répétant qu'elle ne valait rien. C'est-à-dire après en avoir pris copie. Il m'a fait cadeau de ceci, messieurs, de ceci, que je lui rends. » Cela dura quelques secondes à peine, et pourtant, jusqu'à ma dernière heure, jamais je n'oublierai la figure peinte de Morrison sur la scène, ni cette autre figure, toute blême et ruisselante de sueur, qui était sous les loges, ni le billet de 5 livres que Farazine brandissait à bout de bras et qu'il conservait intact depuis 2 ans, ni la stupeur où fut plongé le public jusqu'au moment où une main s'abattit sur son col crasseux. « Et quoi ? » hurla-t-il. « Est-ce qu'aucun d'entre vous ne consentira à me croire ? Est-ce qu'aucun d'entre vous ne me soutiendra ? N'y a-t-il pas parmi vous un homme, un seul ?» Et on l'entraîna dehors au moment où mon nom s'échappait de ses lèvres. Et je le suivis, renversant d'un coup de poing une brute qu'il maltraitait, un peu trop fort, mais à moi, il ne m'arriva rien, à cause de ce qui arriva à Farazine. Le bon vieillard se tut un instant et prit sa tête grise entre ses mains. Puis il reprit, plutôt comme s'il se parlait à soi-même que comme s'il s'adressait à moi, « Que pouvais-je faire ? Quelle preuve étais-je en mesure de fournir ? Il avait tout brûlé. Et tant que le public serait pour lui, Morrison conserverait sa bonne réputation. Aussi cette pièce fut-elle son plus grand succès. Je me risquai timidement à lui demander ce qui était arrivé à Farazine. « Oh, il est mort entre mes bras !» s'écria mon vieil ami en proférant un juron et en écrasant 2 grosses larmes au bord de ses paupières. Il est mort devant le théâtre, quelques minutes au plus après qu'on l'eût expulsé. Et pendant qu'il expirait, j'entendais encore les applaudissements dans la salle, les applaudissements qui consacraient le triomphe de sa pièce. »